Voilà, justement. Alors, plaisir d'enseigner. Souvent aussi, on trouve fortement revendiqué, alors c'est amusant, qui du côté des enseignants et maintenant qui du côté du ministre, qui parle de liberté pédagogique. Et on voit bien qu'ici, il y a non seulement une grande liberté, une grande possibilité de faire, mais aussi une grande responsabilité à choisir. Et c'est une des caractéristiques de quelques-uns de nos chapitres que de donner le choix. Hein. Il y a
Tout à
un
fait.
vrai travail de
Bon,
choix raisonné à faire.
tout à fait.
Oui.
L'essentiel de notre idée, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Et ça, vouloir faire et imaginer ce que je n'ai cessé de dénoncer sous le titre de mythe identitaire, qu'un enseignant fera identiquement la même chose en face d'élèves qui sont réputés être tous identiques, identiques de quoi? De santé, identiques de milieu familial, identiques de ressources, identiques de possibilités de travailler chez eux, identiques d'âge. Alors, même quand on prend des enfants qui sont de la même année, ils peuvent avoir 11 mois de différence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en 11 mois quand on sait l'évolution des jeunes et de l'enfance? Bon, c'est extraordinaire. Donc, on n'a pas affaire à des êtres identiques, on a affaire à des êtres originaux, multiples, et par rapport auxquels il faut arriver à faire ce qu'est l'esprit de toute classification, une manière, justement, de voir les différentes façons valables pour les uns, valables pour les autres, et se donner suffisamment de variété de références et d'utilisation de matériaux divers, d'instruments, de manières de faire et de dire, pour que ça puisse arriver à approcher, à intéresser au maximum, le maximum d'élèves.
Tout à fait. Et donc, à travers les différents traitements du chapitre, on voit très bien les effets que ça peut produire chez les élèves. On a vraiment cherché l'impact que ça pourrait avoir au niveau des apprentissages, mais aussi au niveau de l'organisation de la vie sociale. Vous l'avez,
exactement.
On a mentionné l'importance justement des groupements un peu différenciés.
Comment organiser la classe?
Comment on organise tout simplement? Il y a des formes d'organisation.
Il peut y avoir des équipes de trois élèves, des triades, il peut y avoir des équipes de quatre, il peut y avoir des équipes de six, il peut y avoir des binômes, il peut y avoir une variété suivant les cas, suivant les besoins, suivant les disciplines, suivant les moments. De même qu'il y aura une diversité, comme nous l'avons fait, de temps. Parfois, il faut des temps assez ramassés, d'une demi-heure. Parfois, il faut au contraire l'espace de temps de 3 heures, je dis bien espace de temps à la Einstein, de 3 heures, pour arriver à faire que, après un apport de connaissances, le professeur puisse faire une application avec les élèves, voire faire des corrections, voire ensuite envoyer des élèves au tableau pour réaliser certaines choses. Eh bien, il faut du temps, et nous avons montré dans les expérimentations qui ont été faites, en particulier par un certain nombre de nos collègues de l'Institut national de la recherche pédagogique, que, effectivement, il y a intérêt à ce qu'il n'y ait pas, et l'inspection générale là-dessus était profondément d'accord dans les années 90, 80 et 90, il faut qu'il y ait des temps pour des apprentissages rapides et des mémorisations simples, et puis des temps pour l'exploitation, la mise en forme, là encore, ne pas confondre écouter des connaissances, prendre des notes et, au contraire, utiliser les connaissances, les notes, ou aller chercher les connaissances à la bibliothèque ou au centre de documentation et d'information. Il y a là toute une série de possibilités qui sont vitales pour que l'enseignant ne soit pas quelqu'un qui passe son temps à parler ou à poser des questions aux élèves ou à se laisser poser des questions. Non, c'est infiniment plus riche que ça, tout le monde le sait, mais il faut enrichir encore ces possibilités, en particulier vis-à-vis de nos jeunes collègues, en même temps avoir l'amitié de nos collègues plus anciens qui pourront s'intéresser et dire « Ah ben oui, moi je vais voir comment je vais faire pour finir un cours. Ben vous me proposez 36 façons. Eh ben je vais voir si je fais ça, si je peux faire des choses, et si moi-même je peux trouver une 37e. » Car là, encore une fois, il n'y a pas une seule manière de faire. Et on peut combiner aussi des idées qui sont comment commencer un cours, comment finir un cours, comment utiliser des documents, comment faire utiliser des documents par les élèves, comment faire chercher des documents, comment faire qu'il y ait aussi une espèce de revue de presse faite par certains élèves sur certains secteurs. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce que l'on dit en physique, dans les milieux scientifiques tels que ça paraît dans un certain nombre de publications, etc. Enfin, une richesse. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe du côté de l'art et quelles sont les expositions intéressantes à proximité par lesquelles nous pouvons aller nous replonger aussi pour enrichir nos possibilités culturelles. Ça ne va pas se faire tout seul. Et il faut là-dessus, les enseignants, moi j'ai été frappé de voir à un moment donné un professeur de mathématiques entraîné à un moment donné où il existait une espèce de 10% du temps à la disposition des enseignants, amener ses élèves visiter le Louvre parce que c'était un passionné de la sculpture hellénique. Eh bien, je crois que là encore, il y a des variétés d'utilisation du monde extérieur que nous avons essayé de faire apparaître dans ces mille et une propositions.